Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Non, j'aurais pu dire non au plaisir de vous retrouver au micro, ne pas venir à la maison de la radio, rester au chaud sous la couette, affirmer mon individualité, mettre l'équipe en panique à la recherche d'un remplaçant de dernière minute, dire non pour le plaisir d'affirmer ma volonté, un peu à la manière du personnage oisif d'Alexandre le Bienheureux, interprété par Philippe Noiret. On peut également dire non pour se dégager d'une oppression, celle du harcèlement sexuel, du racisme, de l'antisémitisme, de la grossophobie, user du non comme d'une arme intellectuelle pour penser librement par soi-même, car penser c'est dire non, comme le disait le philosophe Alain. Et puis on peut également dire non pour affirmer son moi, se distinguer, pratiquer ce que Freud appelait le narcissisme des petites différences. On explore aujourd'hui le pouvoir de dire non avec le philosophe Vincent Delecroix, mes complices du jour, Éric Libiot et Christy Lapelédouel. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Bonjour Vincent Delecroix.
Bonjour.
Philosophe, spécialiste de Kierkegaard, romancier. J'avais lu avec grand plaisir La chaussure sur le toit. Très drôle roman. Et vous publiez Nom de l'esprit de révolte chez Autrement. Alors le Littré nous dit que nom est la particule négative opposée à oui. Et pour vous.
Ça nous avance beaucoup.
Ça nous avance beaucoup. Et pour vous, Vincent Delecroix, c'est quoi votre définition du nom?
Ben justement, il y en a pas. Enfin, c'est des emplois. En fait, une définition, ça fixe un terme. C'est un terme qui a pas de sens. En fait, ça a pas de signification. C'est une action. Dire non, c'est s'opposer, résister, contredire. Voilà. Donc c'est pas la définition qui importe. C'est l'usage. Et moi, j'ai écrit un livre autour de cet usage pour éviter de donner des définitions parce que précisément, il y a à peu près autant d'usages qu'il y a d'usages du langage.
Alors votre livre débute avec votre fille, alors âgée de 3 ans, qui tire un immense plaisir, pertinent à dire non. Et tous les parents connaissent cette période où leur enfant dit non à presque tout. Votre fille dit non à quoi, en fait, là, à l'âge de 3 ans?
En ce moment, vous voulez dire? Parce que maintenant, elle a 5 ans et c'est toujours pareil.
À l'époque.
C'est un grand cri, d'ailleurs.
À l'époque.
C'est non à tout. Je commence le livre là-dessus parce que précisément, il y a un moment donné où, et c'est ça qui est une vraie jouissance. Enfin bon, la jouissance, elle dure 5 minutes pour les parents, mais on voit qu'il y a un moment donné où, bon, il faut dire non à ceci, à cela, parce que effectivement, elle s'oppose, elle n'a pas envie de ceci ou elle n'a pas envie de cela, mais au bout d'un moment, on a l'impression que c'est purement gratuit. Mmh. Et moi, c'est ça qui m'a fasciné, c'est qu'à un moment donné, ça l'enchante elle-même, et il y a une espèce ça plonge très 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 profondément dans les racines psychologiques et même existentielles. On a l'impression que, voilà, c'est un moment où elle se constitue, et finalement, ce nom, il est absolu, il s'oppose à tout. Et moi, c'est ça qui m'a frappé, c'est qu'à un moment donné, il y a même plus d'utilité. Il y a simplement la pure jouissance d'être là et de se séparer du monde, de rompre avec une espèce d'immersion dans laquelle elle se trouvait. Et d'un seul coup, on a l'impression que l'individualité émerge. Alors, elle émerge négativement. Et moi, c'est ça qui me fascine. Enfin, ça m'a fasciné pendant 10 minutes. Faut pas exagérer non plus.
Christy Lapelédouel, sur le stade du non, autour de 2-3 ans.
Oui, autour de 2-3 ans. C'est un stade indispensable. Indispensable aux enfants pour, en effet, constituer leur individualité, se séparer du reste du monde et affirmer leur conscience naissante qu'ils ne sont pas leurs parents, qu'ils se détachent de la fusion. Donc évidemment, pour les parents, c'est douloureux. On n'a pas forcément envie de se séparer. Ouais,
ce qui me frappait aussi, c'était que, bon, elle est dans le nom. Au bout d'un moment, ça tape un peu sur les nerfs, il faut le dire. Mais on s'aperçoit à ce moment-là à quel point eux-mêmes sont soumis au non. C'est-à-dire ils sont dans l'interdit permanent. On leur dit non sans arrêt, non, fais pas ci, fais pas ça. Il y a un moment donné, c'est justice qui nous l'envoie dans la vie.
Ce qui est amusant, c'est qu'avant de dire non, l'enfant affirme un grand oui à la vie.
Mais c'est ça qui m'a frappé, c'est-à-dire que ce qui est valable pour l'enfant ou pour un certain stade de l'enfance, je dis pas qu'il faut pas mûrir, mais on a l'habitude de dire bon, il y a le stade du non et puis après on s'accommode avec le monde, on dit oui, on fait des compromis et c'est nécessaire. Tout simplement, il faut vivre, il faut s'adapter, etc. Mais l'idée du livre, c'était aussi de demeurer dans un stade du non absurde, frontal, etc., mais conserver cette espèce de retrait, de prudence aussi, de liberté, conserver cette espèce de négativité qui peut être très très énervante, mais qui est absolument vitale. Et donc ce qui vaut pour l'enfant au moment où, enfin je suis pas un spécialiste de la pédopsychiatrie, mais au moment où ce qui vaut pour l'enfant vaut aussi pour notre vie d'adulte. C'est-à-dire que c'est, nous sommes constamment dans une immersion au oui, dans une acceptation. Je dis pas qu'elle est mal, je dis pas qu'au contraire, elle est absolument vitale aussi. Mais il y a un moment donné où cette acceptation du monde menace de nous engloutir.
Mais j'ai pourtant l'impression qu'on vit une époque qui valorise le non.
Ben, un peu trop, oui.
C'est-à-dire
Oui, c'est ça le paradoxe. C'est là-dessus que je voulais bâtir le livre. C'est-à-dire, je voulais défendre une certaine négativité, certaines attitudes négatives, refuser, la pudeur, des choses comme ça, une espèce de retrait, l'ironie, mais en même temps aussi refuser ou critiquer des usages hyper massifs, très très liés à la société libérale. D'affirmation de l'individualité, de la petite individualité par l'opposition. Il faut être belle, alors il faut être belle en achetant tel parfum. Il faut être belle, enfin, bref, il y a une espèce de survalorisation du non, de l'anticonformisme qui vire au conformisme le plus plein et le plus dangereux.
Christine Lapelle-Edouelle.
Oui, c'est ça, mais c'est ce qui est très intéressant dans votre livre, justement, c'est la distinction que vous faites entre ce non massif qui, dans le fond, est un non de conformité, de conformisme, qui, en réalité, ne permet pas de faire ce léger saut de côté pour regarder le monde avec des yeux différents et surtout avec des yeux qui sont les siens propres, qui sont ceux de sa propre pensée, de son individualité. Et en réalité, vous citez le Black Friday, mais on pourrait citer aussi l'exemple du mouvement des Gilets jaunes. C'est le non, mais en réalité, le non à quoi précisément? Et surtout, est-ce que c'est un non qui permet d'aller vers autre chose, c'est-à-dire de construire une critique, une pensée? On n'a pas le sentiment que ça soit exactement ça.
On reviendra tout à l'heure sur le nom du mouvement des Gilets jaunes. Mais Vincent Delacroix, dire non, c'est vivre, c'est résister à la mort. Oui à la vie, non à la mort.
Alors ces grandes oppositions, justement, j'essaie de les dépasser assez rapidement parce que en fait on pense rien en disant ça. Simplement, je cite par exemple la définition de la vie que donne Bichat, par exemple, le grand médecin, le grand savant Bichat. Et c'est très très curieux parce que il donne une définition purement négative. La vie, c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Autrement dit, la vie, c'est une loi d'entropie. Vous dégénérez, malheureusement. Nous vieillissons. Et la vie, contrairement à cette espèce d'acceptation solaire très nietzschéenne, oui, oui à la vie, comme dirait l'autre, si à la vie tard. Et ben non, en fait, la vie, c'est autre chose. C'est un processus de résistance systématique, de résistance à une loi d'entropie, qui est aussi une résistance à une calcification. C'est ça le paradoxe de la vie. C'est que il faut que ça avance, mais il faut que ça se stabilise. Or, la stabilisation, c'est aussi la mort. C'est-à-dire que il y a un principe d'élan vital. Oui, d'accord. Alors on avance, mais il y a un moment donné, ça vaut pour les sociétés, hein, de la même manière que pour les individus. Il y a un moment donné où il faut que ça se pose, que ça se stabilise. Ça s'appelle un organisme. Ça tourne en rond et au bout d'un moment, ça tourne en rond, ça saucifie et ça se pétrifie.
Votre livre n'est pas un éloge béat, voire bêta du non. Bien au contraire.
Surtout pas. Et ce qui m'intéressait, c'est ce qu'on vient de dire aussi. Bon, cette espèce de mode du non, de la rébellion, de l'insoumission,
de l'indignation,
au bout d'un moment, ras-le-bol, parce que ça détruit un instrument qui est extrêmement important, extrêmement utile. À l'utiliser contre tout et n'importe quoi, vous l'usez. C'est aussi bête que ça. Quand vous vous indignez pour tout et pour n'importe quoi, quand il s'agit d'être insoumis pour être insoumis, eh ben, au bout d'un moment, cet instrument-là, vous l'entretenez pas vraiment. Il est usé. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, il faut se méfier aussi des éloges. Je voulais pas faire un éloge, justement. Il faut se méfier. J'ai trop travaillé sur l'ironie pour ne pas me méfier des éloges et dire oui le non, c'est très bien. D'abord, c'est une contradiction. Et puis en plus, méfiez-vous parce que le non, il a aussi des effets. Enfin, dramatique, qu'on voit tous les jours.
Christine Lapelle-Edouelle.
Oui, c'est exactement ce que disait Hubert Beuve-Méry, le fondateur du Monde, qui disait, parce qu'on accusait toujours le Monde d'être le robinet d'eau tiède, etc., il disait, il faut vraiment se méfier de ces indignations de peur de les user. C'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que l'indignation doit s'utiliser à bon escient et avec force, mais pour une raison qui a vraiment quelque chose à dire.
Je crois beaucoup à l'indignation comme premier mouvement. C'est fondamental, c'est la conscience morale. Il y a des choses qui nous révoltent, il faut entendre ça. Et ce nom-là, il faut le préserver, au contraire, il est extrêmement précieux. Sinon, on accepte le pire. Ça, et pour moi, c'est vraiment fondamental. Mais ça peut pas être le tout de l'attitude. C'est être indigné pour être indigné. Pardon, je m'en suis pris aussi à ce petit livre de Stéphane Hessel qui a eu tellement de succès.
Indignez-vous.
Formidable. C'est une personne éminemment remarquable. Mais la manière dont ça a été utilisé, c'est complètement dingue. Indignez-vous pour vous indigner. Moi, je peux m'indigner qu'il y ait trop de juifs en France ou trop d'arabes en France. Et je finis par leur taper dessus. Donc, indignez-vous pour s'indigner. Faites attention, les gars, parce que ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire.
Le nom peut déstabiliser. Imaginons, je vous pose la question, comment ça va? Et vous me répondez non.
Ça
crée un mini-séisme dans la relation.
Alors c'est ça, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est exactement ça. C'est-à-dire tout ce qui fragilise les positions, non pas seulement doctrinaires, mais tout ce qui fragilise les positions assises. Je ne dis pas que c'est qu'il faut faire tout le temps ça. Je dis que c'est vital. C'est simplement ça. Et c'est pour ça que l'une des positions ou attitudes négatives que je chéris le plus, sur lequel je travaille depuis un bon bout de temps, à cause de Kierkegaard, mais pas seulement, c'est l'ironie, justement. C'est-à-dire, est-ce que ça va? Ouais, je suis vraiment en pleine forme. Et j'utilise un ton sinistre. Bon, d'accord, je suis en train de dire le contraire, ou je veux signifier le contraire de ce que je suis en train de dire. C'est l'usage le plus plat de l'ironie, mais ça dit ce que ça veut dire. Parce que je n'utilise pas la négation. Elle est dedans. Mais je n'utilise pas la
Et c'est un moyen de fausser le jeu de l'antagonisme binaire, oui-non, cette ironie.
Ouais, et ça aussi, c'est... Alors, dans la philosophie, ça a des structures logiques, ça s'appelle la dialectique, sur lesquelles je reviens, qui sont des questions extrêmement importantes, parce que c'est aussi par ces structures logiques qu'on a, pendant longtemps, les philosophies de l'histoire ont expliqué l'histoire. C'est-à-dire, un coup positif, un coup négatif, on détruit, mais c'est pour avancer, etc. Bon, c'est comme ça qu'on justifie les pires massacres de l'histoire, parce que c'est pour un bien futur, ou les synthèses débiles. C'est-à-dire, oui, non, oui, non, oui, non. Enfin, moi, quand j'enseignais en terminale, c'était le pire de la disserte. C'était oui, non, et à la fin, oui et non. Peut-être ben oui, peut-être ben non.
Christine Appelé-Douelle.
Oui, non, mais c'est tout à fait ça. Et quand vous parlez de l'ironie, et on a déjà eu l'occasion de le faire, c'est ce nom qui ne dit pas son nom, si je peux dire.
Mais c'est très juste.
Nom qui ne dit pas son nom et qui permet aussi à l'autre, en face, à qui on envoie ce nom anonyme, de lui aussi faire un pas de côté et de réfléchir. Parce que si on dit non, c'est frontal, voilà, c'est terminé, c'est fermé. L'ironie permet de laisser la porte ouverte et de laisser à l'autre la possibilité...
Du jeu, ça laisse du jeu.
Et du jeu dans les deux sens du terme, c'est-à-dire l'ouverture et le jeu pour jouer.
Oui, absolument. Et ce qui est fondamental, c'est que si vous êtes dans une simple contradiction ou une simple négation, en fait, vous êtes dans une affirmation. C'est une affirmation contraire, mais c'est la même affirmation.
Oui.
C'est oui, il fait beau, non, il fait pas beau.
C'est blanc et noir.
C'est la même structure, c'est la même structure propositionnelle. L'ironie, c'est autre chose.
C'est une proposition.
C'est une proposition que vous êtes obligé de décrypter. Alors, vous pouvez la manquer, et c'est ça le jeu, justement. C'est-à-dire, vous pouvez ne pas comprendre l'ironie, ne pas la saisir, vous pouvez mal la comprendre, vous pouvez mal la prendre, comme on dit, mais vous introduisez du jeu dans le langage et dans la signification. Et ça, c'est fondamental.
Éric Libiot qui adore dire non.
Mais non.
Voilà.
À quel moment vous parlez de l'enfant qui se construit par rapport au nom? À quel moment on a conscience que cette construction, effectivement, on peut passer au peut-être ou si ça se trouve, oui, d'accord, etc. Est-ce que c'est à l'adolescence? Est-ce que c'est plus tard? Comment est-ce que ça se...
Parce que justement, je suis pas un spécialiste de l'enfance et j'ai pas des prétentions. Au contraire, il y a des spécialistes qui sont là pour en parler. Moi, j'ai pas des prétentions. Moi, mes références, certes, sont mes enfants. Et là, pour le coup, c'est vraiment une vivo. Mais c'est aussi, moi, je suis très attaché notamment en raison de mes études, je suis très attaché à ce qu'on appelle le Bildungsroman, le roman d'éducation, c'est les années de Wilhelm Meister de Goethe, et qui a été une forme jusqu'à Flaubert, enfin avec Flaubert, etc., qui a été une forme littéraire extrêmement importante, très très prégnante au XIXe siècle, et qui, dont l'objet C'était ça, c'était dire, voilà ce que c'est que la maturité d'un personnage. Qu'est-ce que c'est ? Et bon, y a des impacts philosophiques considérables, mais c'était dire, bon voilà, l'entrée dans la vie est en général une entrée fracassante. Alors c'est le jeune romantique avec ses grandes illusions, ses grandes... Voilà, et puis au bout d'un moment, bah, la vie se charge de lui rappeler qu'il faut en rabattre un petit peu.
Je crois savoir que vous avez des jumeaux, Vincent Delacroix. Ouais. Le stade du nom a dû être assez gratiné.
Ah, oui, surtout que c'était pas le même. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un stade, mais c'est pas du tout homogène. Pas du tout.
Éric Libio.
Qu'est-ce que le philosophe que vous êtes fait de ce paradoxe à la question savez-vous, pouvez-vous dire non, voulez-vous dire non? Si effectivement on veut dire non, on répond oui.
Bah oui, mais c'est précisément cette espèce de double bind,
de double contrainte,
qui est caractéristique de ce jeu du oui et du non, et dont il faut sortir justement. Parce que sinon, vous êtes constamment, non pas dans la contradiction, ça c'est plutôt agréable d'être dans la contradiction, enfin pas pour les autres, mais c'est non pas d'être dans la contradiction, mais de neutraliser systématiquement vos affirmations et vos négations. Donc ça revient au même, à la fin c'est un jeu à somme nulle.
Une question de Maxime sur notre page Facebook, savoir dire non a changé la façon de s'exprimer de ma fille, elle a 19 mois et répond non à quasiment tout ce qu'on lui dit bon depuis quelque temps. Pourquoi l'opposition fait-elle partie du processus de construction d'un enfant, Christine Appelé-Douel?
Bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le non qui permet d'affirmer que je sais que je suis moi et que je ne suis pas les autres. Voilà, je prends conscience que j'existe, que je suis moi, que je suis un individu bien déterminé et bien dessiné par rapport au reste du monde. Je voulais juste raconter juste une petite anecdote par rapport à vos enfants. J'ai une fille également et quand elle avait 2 ans, elle était aussi dans ce stade du non et elle disait non sans arrêt. Je lui dis « Est-ce que tu sais dire oui ?» Et elle m'a répondu « Non
». On s'intéresse aujourd'hui au pouvoir du non avec le philosophe Vincent Delacroix. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Alexia Lacour, ainsi qu'à Claire Destacan et Laura Laplot, et à la réalisation, Stéphanie Texier.
I'm fine. They try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with bread. I ain't got 17 days. 'Cause it's
Amy Winehouse interpréter Rehab.
Quand j'ai dit non, c'est non, là !
Grand bien vous fasse.
Vous savez, je sais dire non avec beaucoup de politesse et de pragmatisme.
Ali Rebéi sur France Inter.
On s'intéresse aujourd'hui au pouvoir du non avec le philosophe Vincent Delecroix.
Bref, j'étais au supermarché, une femme m'a proposé du saucisson. J'ai dit
non.
Elle m'a dit
c'est gratuit.
J'ai dit
oui.
Elle m'a demandé
c'est bon.
J'ai répondu
oui.
Elle m'a dit
vous voulez en acheter.
J'ai dit
non.
Elle avait l'air déçue. Je me suis senti coupable, j'en ai acheté. 3. Je suis comme ça, je sais pas dire non. J'ai couché 3 fois de suite avec une fille parce que je n'osais pas lui dire qu'elle me faisait pas. J'ai aidé un mec à déménager, je le connaissais même pas. Quand quelqu'un me marche sur le pied, je dis pardon. J'en ai parlé à mon psy, il m'a dit
je propose qu'on se voit 2 fois par semaine.
J'avais pas les moyens, j'ai dit
d'accord.
Une copine m'a recommandé un livre, savoir dire non. Je l'ai lu, j'ai pas aimé, elle m'a demandé
t'as aimé.
J'ai dit
oui.
J'ai participé à des cadeaux communs de mecs que je connaissais pas. Un jour, j'en ai parlé à Baptiste, il m'a dit
en fait, je peux pas payer le loyer ce mois-ci. Ça t'embête ou pas?
Ça m'embêtait. J'ai dit
non.
L'excellent bref de Kien Kojandi. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Alors comme le personnage de la série Bref, vous avez beaucoup de mal à dire non. Et ça se traduit comment cette incapacité de dire non?
À peu près comme le personnage de Bref. Ça se traduit par un soin chez le coiffeur que je me suis juré de refuser avant d'y aller et que j'accepte en un quart de seconde. Ça se traduit par accepter 3 invitations le même soir de 3 personnes différentes. Alors je sais que je ne pourrais pas aller aux 3 invitations, hein, mais je dis oui quand même parce que je veux pas décevoir. Voilà.
Et vous nous avez dit hors antenne que, par exemple, pour ne pas importuner les gens dans le métro, vous mettez votre musique, votre son au minimum, et du voilà. Coup, vous entendez rien, c'est ça?
Rien. Mais par contre, si quelqu'un à côté de moi met sa musique très très fort et que ça m'importune, je vais jamais oser le dire.
Au marché, par exemple, au marché.
Oui. Ah ben, au marché, je sais que je peux payer avec ma carte bleue pour un montant minimum de 1 euro chez mon maraîcher, mais je trouve ça tellement horrible que je vais acheter 20 000 légumes pour pouvoir faire une grosse carte bleue. Ils vont évidemment pourrir dans mon frigo, bien sûr. Hein, voilà.
Et Caroline, je crois savoir que vous êtes repartie un nombre incalculable de fois d'un magasin avec des fringues que vous détestiez.
Absolument, oui, bien sûr. Mon placard déborde de fringues trop petites parce que je suis trop ronde, mais que j'accepte. Ne serait-ce que pour pas avoir la honte de demander une taille au-dessus et puis surtout pour faire plaisir à la vendeuse, quoi.
Et comment ça se passe au restaurant quand vous n'aimez pas un plat?
Ben, quand j'aime pas un plat, je me force soit à le finir, soit j'essaye de camoufler les restes sous la carcasse du poulet, par exemple, parce que j'ai peur de faire de la peine au serveur, qui, à mon avis, n'en a absolument rien à faire. Mais je peux être tentée de jeter les restes de mon assiette dans le pot de fleurs à côté pour ne pas vexer la...
Mais Caroline, il y a une chose très drôle que vous nous avez dit hors antenne, c'est que vous avez même peur d'embêter votre psy avec vos problèmes.
Exactement. C'est-à-dire que vraiment, en général, je ponctue chacune de mes phrases, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Et voilà, j'essaye vraiment d'être la bonne élève, même avec ma psy, ce qui, à mon avis, est quand même un échec assuré d'une thérapie, hein, quand même, a priori. Mais vraiment, il faut que je lui plaise aussi à elle, quoi.
Et comment vous expliquez, Caroline, cette peur de dire non? Comment vous l'expliquez? Il y a par exemple Justine nous dit par Facebook que je ne parviens pas à dire non par peur d'être méchante avec la personne en face de moi et qu'elle m'apprécie moins.
C'est ça. Moi, je crois que vraiment, j'ai besoin qu'on m'aime tout le temps. J'ai besoin qu'on m'aime. Et en plus, je crois que le fait d'être désiré est quelque chose qui l'emporte sur tout le reste. Donc là, récemment, par exemple, moi, je suis scénariste et un peu journaliste encore, et je suis freelance. Et on m'a proposé un emploi en contrat indéterminé, alors que vraiment, ma liberté, je la chéris plus que tout. Mais j'ai mis 2 mois à arriver à dire non. J'ai failli accepter un CDI que je ne voulais pas, juste pour ne pas décevoir la personne qui me la proposait, quoi. Donc, vous voyez où ça peut me mener quand même, hein, dans des situations quand même assez terribles. Mais parce qu'en fait, le fait d'être désiré l'emporte sur les désagréments qui vont suivre quand je vais dire oui alors que j'ai envie de dire non, quoi.
Vincent Delecroix, je rappelle que vous avez écrit Nom de l'esprit de révolte. Ça vous inspire quoi, cette incapacité de dire non,
moi,
de Caroline?
Sérieusement, j'ai envie de vous dire changez rien. C'est un enfer pour vous, c'est vrai, c'est terrible, mais pour les autres, c'est formidable. Quand même, ils vendent des produits qu'ils vendraient jamais. Vous êtes poli avec eux sans arrêt, c'est absolument magnifique.
Caroline, restez avec nous. Il y a Maryse avec nous qui appelle du Sud-Ouest. Bonjour Maryse.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous, au contraire, votre réflexe, c'est de dire non.
Oui. Ouais, ouais. C'est un réflexe parce que je suis très souvent pas d'accord avec une partie. Mmh. Et comme je suis pédagogue, j'aime partager, j'aime encourager les gens à chercher, les gens, les élèves, plus ou moins. J'aime dire oui, je ne peux dire oui qu'après avoir dit non à ça, mais oui, et puis donc d'expliquer. Donc ça,
mais est-ce que ça vous a handicapé beaucoup, est-ce que ça vous a handicapé ce réflexe premier de dire non?
Ah oui, oui, mais au fond de moi, oui, effectivement. Mais je pense que c'est comme une espèce de tic de défense. Vous avez plein de gens qui ont des tics, qui répètent un certain mot. Et je pense que c'était pour me protéger, parce que c'est vrai que je suis petite, j'ai été je me suis beaucoup analysée, parce que j'ai fait des petites psychothérapies dans ma vie pour d'autres choses. Et j'ai compris que, j'étais une fille d'ouvrier dans un lycée avec toute la crème du département dans les années 60-70. C'est un tempérament aussi d'attaquer pour se protéger, quoi.
Tiens, donc, Vincent Delecroix, Maryse dit qu'elle dit non pour se protéger.
Oui, c'est le seul problème, c'est que la vertu de cette protection, elle est très, enfin, elle est immédiate, mais elle est aussi extrêmement limitée, parce que entre la protection et l'isolement, il y a un pas très 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 petit à franchir et qu'il est très rapidement franchi.
Caroline, Marie, ce serait pas mal si vous échangiez.
Vous avez le droit de dire non.
Vous pouvez dire non.
Non, mais je sais dire oui, mais j'ai 63 ans, donc j'aime la solitude. Je l'aime depuis toujours, et j'aime aussi parler. Je pense que j'arrive doucement à trouver un équilibre. Et voilà quoi.
Merci beaucoup Maryse et Caroline d'avoir appelé. Vincent Delecroix, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui aiment dire non pour affirmer leur moi, ce moi haïssable selon Blaise Pascal? Quel regard vous portez sur ceux qui aiment affirmer leur personnalité, leur authenticité, qui aiment se distinguer en disant non?
C'est un énorme paradoxe, mais c'est un paradoxe j'allais dire quotidien, c'est-à-dire le fait de se poser en s'opposant, de s'affirmer en disant non, c'est-à-dire de s'affirmer par la négation. C'est au moins logiquement c'est un paradoxe, mais comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi vital que mortel, et c'est il y a un côté là encore dans la surenchère du moi, du narcissisme dont on est accablé en ce moment, qui fait que, encore une fois, cette position ou cette attitude vitale est en train de virer à une espèce de tic, alors là pour le coup, mais vraiment de tic psychologique, quoi. C'est le moi est devenu envahissant à cause de ça, alors même que, vous citiez Pascal, alors même que il y a un effet de la négation, c'est ce que j'essaie de dire à la fin du livre, il y a un effet de la négation qui vise non pas à construire l'identité, mais à s'en détacher, justement, à essayer de se libérer de cette affirmation de soi, par le nom aussi, mais à essayer de se détacher de l'identité dans laquelle on se fixe.
Et vous dites que c'est quand on cherche à être n'importe qui qu'on a de fortes chances de devenir soi-même.
Absolument. Moi, je suis très frappé par l'espèce de survalorisation du penser par soi-même, être soi-même, et même par l'injonction ultra-libérale, sois toi-même, et sois authentique, etc. C'est d'une incroyable violence, en plus. Et en plus, c'est complètement faux, parce que ça aboutit à un résultat exactement inverse à celui qu'on escompte. Mais l'inverse me paraît extrêmement vrai, c'est-à-dire, et moi ça fait partie effectivement des thèses sur lesquelles je travaille, c'est-à-dire une espèce d'anonymisation de soi, une espèce de devenir n'importe qui est au contraire un geste paradoxal, mais un geste qui permet de se détacher à la fois de ses injonctions sociales, politiques, morales, et de cet effet mortifère de l'identité.
Éric,
oui, mais est-ce que le nom ne serait pas forcément une façon d'affirmer le moi, son propre moi, ça peut être aussi pour l'interlocuteur qu'on a en face de soi, une demande de convaincre, d'expliquer, de s'affirmer lui-même, etc., etc. Il y a aussi peut-être un jeu.
Ah oui. Entre, moi, c'est je consacre une
partie. Induit le nom.
Oui, je consacre une partie justement à la sociabilité qu'introduit le nom. À une sociabilité paradoxale. On a l'impression que la sociabilité, c'est l'accord, c'est l'unanimité, c'est le consensus. C'est exactement l'inverse. Qu'est-ce qu'on fait là, sinon parler parce que nous ne sommes pas tous ou tout à fait d'accord, ou plus précisément parce que nous commençons par parler sur le mode, certes d'un accord parce qu'on partage le même langage par exemple, mais d'un désaccord qui fait que bah, nous avons des opinions différentes, nous avons des pensées différentes, etc. Et donc il ne faut pas s'imaginer du tout, et je trouve au contraire très mortifère l'idée que l'horizon de la conversation ou l'horizon de la sociabilité, voire l'horizon de la société, c'est une société une, unanime, consensuelle, dans laquelle, c'est-à-dire une société totalement dépolitisée également. C'est l'inverse. En réalité, la politique, elle fonctionne au contraire sur le désaccord, par exemple.
Alors Vincent Delecroix, certains pensent qu'ils sont des esprits libres, car ils disent non tout le temps, haut et fort.
Moi, je me méfie beaucoup de ces affirmations. Ouais. L'esprit libre, c'est celui qui le revendique pas tellement. Moi, je me méfie beaucoup de ces affirmations ultra lourdes et en même temps ultra faciles.
C'est-à-dire, vous parlez même de non de faiblesse.
Oui, et puis il y a...
Expliquez-nous.
Non, mais ça signifie simplement que il y a un non de rejet, prétendument décomplexé, par exemple un nom qui en prend à son aise avec les injonctions morales, etc., qui se prête une espèce de post-nichéisme de bazar, qui fait que on est complètement décomplexé, on crache à la figure des gens, on les refoule aux frontières, on est super fort.
Et vous évoquez dans votre ouvrage ces débats contradictoires où le oui s'oppose caricaturalement au non, et vous pointez les contradicteurs professionnels qui pourfendent à longueur de plateau la pensée unique. Pour vous, ce sont des histrions pathétiques, d'écœurants polémistes.
Ça fait partie de ces mésusages, mais cette altération systématique de la contradiction qui est, encore une fois, qui est vitale, du désaccord qui est vital, mais cette mise en scène ultra-violente de la polémique pour la polémique, du pamphlet, de l'agression systématique avec l'emploi de la négation comme pure agression, mais c'est délétère, et puis en plus... Encore une fois, ça détruit un instrument précieux et utile.
Christine Lapelle-Edouelle.
Oui, et le non, dans ce cas-là, est aussi un moyen, un outil ou une arme pour tuer l'autre, en fait. C'est exactement le contraire de ce que vous dites, de l'ouverture au débat. C'est exactement l'inverse. Ouais. À partir du moment où je dis non et où j'affirme ma négation, je dis de manière directe ou indirecte que ce que dit l'autre est complètement crétin, abruti, non entendable. Et donc dès lors, en effet, le débat est clos. Enfin,
c'est pour ça qu'il est irresponsable de faire un éloge du non. C'est pour ça que je voulais pas du tout faire un éloge du non, parce que on le voit tous les jours, et surtout en ce moment, il y a un usage du non extrêmement répandu, qui contente tout le monde et qui est super dangereux, enfin que je trouve très dangereux.
J'ai 18 ans, et ouais, je peux tarder à passer mon permis, donc j'aimerais bien que le prix du gasoil l'arrête d'augmenter.
Le jaune est leur couleur, mais ils viennent tous d'horizons différents.
62 ans, retraité, et je suis obligé de travailler pour finir mes fins de mois.
Sur ce rond-point, certains ont passé la nuit près d'un feu improvisé. Et beaucoup ont laissé de côté leur travail ce matin pour venir manifester.
Donc je me mobilise, je réunis s'il le faut, mes ouvriers y travaillent parce qu'on n'a pas le choix.
Des irréductibles, décidés donc à ne rien lâcher et dont la colère reste encore vive.
Faut arrêter de taper sur les pauvres parce que c'est facile, ils sont plus nombreux et ils ne peuvent pas se bouger, donc faut faire quelque chose.
L'essence, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Au jour d'aujourd'hui, moi je peux vous le dire, c'est un ras-le-bol général.
Extrait de reportage de France 3 Nouvelle-Aquitaine le 19 novembre dernier. Quel regard, Vincent Delecroix, vous posez sur le mouvement des Gilets jaunes? Ce mouvement protéiforme qui dit non aux taxes, à la baisse du pouvoir d'achat. On peut comprendre que ceux qui ont du mal à finir leur fin de mois agissent en utilisant un non aux taxes, à la baisse du pouvoir d'achat. Ça peut se comprendre.
Je vous cacherai pas que je suis de plus en plus dubitatif et de plus en plus effrayé. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'éruption révoltée, etc., c'est l'entrée en politique. Donc c'est fondamental, ça c'est sûr. On entre dans le champ politique par le non. Et c'est ce sur quoi j'essaie de réfléchir dans un des chapitres. Mais ce qu'on voit là, pardonnez-moi, mais je lisais un article hier dans Le Monde sur, alors je dis pas que c'est ça les gilets jaunes, mais les types qui commencent par effectivement revendiquer des choses extrêmement justes.
Légitime.
L'impôt indirect, c'est l'impôt le plus violent et le plus inéquitable qui soit. Ça a été fait en dépit du bon sens, ça d'accord. Mais les types qui sont à des ronds-points et qui en profitent pour faire la chasse aux migrants, aller chercher les migrants dans les camions et les remettre aux policiers, là, c'est hallucinant. Alors voilà un autre usage du nom, là. Formidable. C'est non, vous serez pas chez nous, non, vous rentrez pas. Non mais... Il faut arrêter, c'est bien la raison. Je dis pas qu'il faut pas être sans culotte, qu'il y a pas une tradition révolutionnaire française qu'il faut entretenir, de grogne sociale qui est fondamentale. Mais là, on le voit. Attention au débordement, quoi.
C'est...
Oui, mais je pense qu'il y a aussi peut-être autre chose. Il y a un non, en effet, immédiat. Un non très épidermique aux taxes, à l'impôt inégalitaire, etc. Mais il n'y a pas un non profond à la forme de société dans laquelle nous vivons. Et c'est peut-être là le grand problème. Parce que ce non reste superficiel, même s'il ne l'est pas, même s'il est très compréhensible, parce que oui, des gens souffrent et sont dans des situations catastrophiques et dramatiques, mais le vrai problème qui est en particulier celui du changement climatique, là, on n'a pas entendu de choses, de non, d'opposition et de demande que nous changions de paradigme. Et je pense que le fond de la question, il est là. C'est-à-dire que qui peut adhérer? Bien sûr qu'on peut adhérer à un non très épidermique, mais le non profond, nous l'attendons tous parce qu'on est en train d'en crever.
On s'intéresse aujourd'hui au pouvoir du non avec le philosophe Vincent Delacroix.
On fait claquer la porte du saloon. Les figurants aux yeux noirs se retournent. Un silence pesant règne dans la salle. Nonchalant, impassible, on s'installe. À la fenêtre, le spectacle commence. Au loin, la poussière d'une diligence. Deux cow-boys mal rasés, le regard louche. L'arme au poing pour ne pas rater le coche. Sont embusqués de part et d'autre du chemin. Ça va péter, va y avoir du sang sur les mains. Toi t'as la tienne sur mon revolver. Je ne tiens plus, mon pouce s'accélère. Non, je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas. Au passage du convoi très convoité, les deux brigands cinglés font siffler leurs balles. Contre ma cuisse, mon colt est chargé. Tu me regardes et les chevaux s'emballent. Le lourd chariot se renverse sur le côté. Les bagages et les passagers ventrés. Les assassins enfin s'emparent du pognon. Tu me retiens par le bout du canon. Non, je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Les spectateurs sortent sonner du cinéma. Toi t'as la main dans la poche de mon jean.
Abel Chéré interprétait Western Eros.
Non, non, non.
Grand bien vous fasse.
Non, 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 non.
Ali Rebéi.
Oh non, non, non. Je refuse. Non, non.
Sur France Inter.
Quand j'ai envie de dire oui, je ne sais pas dire non.
On s'intéresse aujourd'hui au pouvoir du non avec le philosophe Vincent Delecroix. Beaucoup, beaucoup de messages, Marion qui nous dit « J'ai tellement peur de dire non que je suis un peu coincé avec les témoins de Jéhovah, que je vais, car j'ai peur de décevoir. » Et la semaine dernière, du coup, j'ai dit oui quand ils m'ont demandé si je croyais en Dieu. J'ai dit oui à la brochure. Maintenant, ils viennent sonner quasi tous les jours à ma porte. Et puis, un mail de Martin à l'adresse de Caroline, notre auditrice qui ne sait pas dire non. « J'aimerais emprunter 10 000 euros à Caroline. Est-ce que quelqu'un peut lui demander ?»
Le 1er décembre 1955, dans un bus à Montgomery en Alabama, Rosa Parks, une femme noire, refuse de céder sa place à un blanc comme l'imposent les lois racistes. Son arrestation provoque un boycott des bus de la ville par la communauté noire pendant un an. Sous la conduite du jeune pasteur Martin Luther King, la bataille pour les droits civiques se transforme en mouvement politique de masse. Depuis la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage au XIXe siècle, les États sudistes refusent l'égalité des Noirs et ont multiplié les lois ségrégationnistes. Pour s'opposer à cette discrimination, les associations de défense des Noirs mènent d'abord un combat juridique qui permet à partir des années 40 de renverser la doctrine du développement séparé. En 1954, la Cour suprême interdit la ségrégation scolaire. Mais c'est la désobéissance civile de Rosa Parks et la campagne pour abolir la ségrégation dans les transports publics de l'Alabama qui lance véritablement le mouvement des droits civiques. Boycott, manifestations et sit-ins se multiplient à travers le pays.
Extrait d'un reportage de TV5 Monde, Vincent Delecroix, le nom de l'afro-américaine Rosa Parks, qui a donc refusé de céder sa place dans un bus dans l'état de l'Alabama le 1er février 1955, état de l'Alabama qui pratiquait la ségrégation raciale, c'est un nom évidemment que vous approuvez, c'est un nom de libération.
Oui, et il est très instructif. Bon, il est exemplaire évidemment, il est même quasiment légendaire, parce que c'est on peut pas trouver, j'allais dire, de nom plus positif, la lutte pour les droits civiques, mais il est exemplaire aussi de ce que peut être une certaine forme de négativité, c'est-à-dire de résistance. Pas d'opposition frontale, elle n'a pas sorti un flingue, elle n'est pas. Et c'est simplement résister à un ordre injuste, rechigner, qui est quand même quelque chose de beaucoup plus. Presque subtil, beaucoup plus subtil que un affrontement direct. Ce qui est génial dans le geste de Rosa Parks, c'est certes d'entraîner ce mouvement magnifique pour les droits civiques, mais d'opposer quelque chose qui fait dérailler. Et moi, c'est ça que j'essayais de. Bien sûr, il y a la révolte frontale, le non, l'opposition, etc. Mais je suis beaucoup plus sensible à quelque chose qui fait dérailler, c'est-à-dire le boycott, par exemple, des bus. Là, en l'occurrence, bah, c'est tout simplement que ça marche plus au sens littéral du terme. C'est-à-dire, il y a plus de gens. Et donc, c'est pas s'opposer directement. C'est d'un seul coup, toute la machine est grippée par une espèce de réticence, encore plus que de résistance, une espèce de réticence qui, alors là, pour le coup, pour moi, est vitale. Il y a un autre personnage, mais alors beaucoup plus, alors là, dans la littérature, c'est Bartleby, le Bartleby de Melville, qui est caractérisé par, bon, il est greffier de notaire, et au bout d'un moment, il refuse les ordres, ou plus précisément, il les dévie et il les neutralise. C'est la fameuse phrase « je préférerais ne pas ». C'est « fais ceci ou fais cela » et sa seule réponse c'est « je préférerais pas ». Et ça me fascine. C'est cette espèce de négativité, cette façon de rechigner, de réticence, beaucoup moins spectaculaire que l'opposition, et beaucoup plus, en réalité, beaucoup plus profond.
Et on l'a vu avec le cas de Rosa Parks, dire non peut produire du droit. On l'a vu avec le mouvement des droits civiques aux États-Unis.
C'est absolument, et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que cet effet de résistance, il produit du droit. Et c'est comme pour l'indignation, c'est bien l'indignation, mais on ne va pas produire du droit à partir de l'indignation. Il y a un moment donné où il faut passer par la médiation des lois et par l'objectivité des lois, c'est-à-dire l'objectivité du politique.
Christine Lapelle-Edouane.
Et à l'inverse, on est en train de réaliser que des noms très puissants via les urnes, comme au Brésil, récemment, c'est-à-dire un non contre la corruption, abouti à mettre, à porter au pouvoir une personne, un homme, qui est exactement l'inverse d'un oui à l'humanité. C'est exactement le contraire. Et qui va commencer à faire brûler l'Amazonie,
C'est caractéristique de ces mésusages du non, cet usage frontal, c'est-à-dire qu'il aboutit en fait à un oui, d'acceptation de la tyrannie.
Mais un oui au pire.
Mais ça prépare toujours une acceptation du pire. Et c'est ça qu'il faut éviter.
Et puis, expérience de la liberté également, récemment, avec le mouvement MeToo, contre les violences faites aux femmes, Vincent Delecroix.
C'est pour ça que j'insistais un peu, là aussi, je termine là-dessus, sur la pudeur et sur le retrait, c'est-à-dire en fait, sur le corps, tout simplement. Le corps qui dit d'abord non ou non merci.
Ah, le non merci.
C'est fondamental, hein. Pour moi, c'est vraiment.
Expliquez-nous.
Précisément parce que c'est pas frontal. C'est-à-dire, non merci, ça me fait penser à l'autre, on peut dire un non poli. Mais c'est pas juste un non poli. C'est-à-dire, c'est pas un non de rupture. C'est pas casse-toi, comme dirait l'autre. C'est pas va-t'en, etc. Mais d'abord, non merci. Donc, je reconnais qu'il y a une proposition, je l'agrée. Merci de cette proposition, mais non. Et je pense que la manière même dont, j'allais dire corporellement, dont nous situons les uns par rapport aux autres, il y a cette espèce de réticence. Sinon, il n'y aurait pas d'amour, ce serait du viol. Il y a cette espèce de réticence première qui pose le corps, les gens, la stature, et après on commence.
Et on va boucler la boucle avec votre petite fille on a évoqué le stade du non, hein, quand elle avait 3 ans, j'imagine, le non, quand elle sera adolescente.
Donc, bon courage, mais alors, je serai pas le seul à en faire les frais, à mon avis.
Merci beaucoup, Vincent Delecroix. Non de l'esprit de révolte est publié chez Autrement. Vous pouvez retrouver toute la bibliographie sur le site de Grand Bien Vous Fasse. Belle journée à l'écoute de France Inter.
Taqal tarhinas, taqal tawik taqdud.